J'ai un sujet ambitieux aujourd'hui, ça s'appelle « Marcher par l'esprit ». Un peu comme Estefania, il y a quelque temps je lisais la Bible et puis j'étais dans l'épître aux Galates et j'arrive à Galates 5 qui est un chapitre complexe et il y a un verset qui m'a vraiment frappé. Il dit ceci, Galates 5 verset 16 et 17. « Voilà donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Comme Stéphanias, tout à coup, des versets on connaît un peu par cœur, mais finalement, c'est des fois plus exactement ce que ça veut dire. C'est tellement familier. Marcher par l'esprit. Ma question, c'est est-ce que je marche par l'esprit ? Des fois, oui. Des fois, on a tous le sentiment d'avoir obéi à Dieu, d'avoir fait quelque chose, et puis il se trouve que cette chose qu'on a fait, ou cette attitude qu'on a eue, porte des fruits. Il y a un impact, et on est heureux. On a vraiment eu le sentiment d'être guidé par l'Esprit. Et puis, il y a d'autres fois, on a le même sentiment. On agit, on fait cette chose qui nous semble juste, et puis, bof. Le résultat, l'impact, est des fois difficile à voir. Puis des fois, on se dit, on aurait peut-être mieux fait de ne pas le faire. Et puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que dans le 90 ou même le 95% des cas, des décisions, des pensées que j'ai, je ne pense pas du tout au Saint-Esprit. Je n'ai pas du tout l'impression, je ne recherche même pas la direction de l'Esprit. On vit naturellement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je marche vraiment par l'esprit, oui ou non? Qu'est-ce que ça veut dire? Le 90%, le 95% de ma vie où je n'ai pas le sentiment d'être vraiment, de marcher par l'esprit. Et pourtant, je dirais, le Nouveau Testament est vraiment rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, il habite mais chaque partie de notre vie. Par exemple, c'est clairement le Saint-Esprit qui seul nous permet de vivre des vies qui honorent Dieu. C'est le Saint-Esprit qui seul nous donne les capacités bibliquement les capacités pour honorer Dieu. Il est une ressource de force, de puissance dont on a besoin pour agir. Il nous donne clairement des dons, des capacités naturelles ou surnaturelles, des appels, des choses comme ça pour le servir. Et puis sans le Saint-Esprit, clairement, on ne sait pas qui est Dieu. On ne sait pas qui est Jésus. Sans le Saint-Esprit, pas de salut. C'est vraiment très central. Alors pourquoi on en est si peu conscient? J'ai pensé à ce verset dans Jean 3, verset 8, où Jésus dit à Nicodème, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. » C'est aussi le cas de toute personne qui est niée de l'esprit. Il y a un côté où je dirais, ça nous dépasse. C'est normal de ne pas savoir. Ce que fait l'esprit est tellement au-delà de nos conceptions, de ce qu'on comprend, on ne va pas pouvoir le mettre dans une boîte et comprendre. Il y a un côté où c'est totalement normal d'être un peu inconscient de ce travail du Saint-Esprit. Mais le verset nous dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est un commandement. Dieu nous dit, mais vous devez marcher par l'esprit. Et c'est un commandement qui est sérieux. Et c'est ce qui m'a frappé en lisant ça là. C'est vraiment sérieux. Je le relis. Voici ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Premièrement, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Si je veux ne pas faire le mal, si je veux faire le bien, ce que me dit ce verset, pour y arriver, la seule possibilité, c'est de marcher par l'esprit. Et je réfléchissais, en fait, on a tendance à faire plutôt le contraire. On a tendance à ne pas se laisser maîtriser par les désirs de notre nature dans le but de permettre au Saint-Esprit d'agir. On a très envie de ne pas attrister le Saint-Esprit, on a très pas envie de le bloquer. Et on va se conduire d'une telle manière où on pense qu'il honore le Saint-Esprit. Mais ce verset dit, c'est le contraire. C'est en marchant par l'Esprit qu'on peut ne pas accomplir les désirs de la chair. Et on est tellement dans l'autre mode. Ça fait quand même réfléchir. C'est vraiment important de marcher par l'Esprit. C'est la seule solution. Ensuite, il dit une autre chose. La nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. L'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Contraire, il y a une opposition. Ça veut dire que mes désirs naturels, tout ce qui remplit mon cœur, ma vie, il y a un côté où c'est l'opposé de ce que veut, de ce que désire le Saint-Esprit. Vraiment, est-ce que tous mes désirs, bons, mauvais, tous mes désirs sont opposés, sont en opposition, perpendiculaire au désir du Saint-Esprit. C'est radical quand même. Il y a besoin des désirs, puisque nos désirs, c'est ce qui nous motive, mais qui soient totalement renouvelés, totalement réorientés. Si je suis chrétien, j'ai des désirs qui devraient être complètement différents de ce que si je ne suis pas chrétien. Mais on a le sentiment que ce n'est pas le cas. On se ressemble, chrétien ou pas chrétien. On a des désirs, des bons désirs, des mauvais désirs qui sont là, qui combattent en nous. C'est la part de l'humanité. Alors, qu'est-ce qui fait que ces désirs sont vraiment si opposés, si différents de ceux que le Saint-Esprit veut mettre en nous? Et troisième point, pourquoi c'est si sérieux, c'est important, c'est que agir par l'esprit ou agir par la chair, ou bien comme dit cette version, par les désirs de notre nature propre, ça nous mène à des directions totalement opposées. Un peu plus loin dans ce chapitre, juste derrière en fait, Paul dit « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Agir selon notre nature conduit là. Agir par l'esprit, marcher par l'esprit. » Verset suivant, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Qui a envie d'immoralité, d'impureté, de débauche, de haine? Qui choisit ces choses-là explicitement? Non, on a plutôt envie d'échapper à sa personne, vraiment très volontairement, consciemment, désire entrer là-dedans. Alors, c'est pas vrai, la magie par exemple, c'est un choix, mais de façon générale, c'est pas le but que... on n'a pas ce désir-là. Et cependant, quels que soient les désirs, quand on marche selon les désirs humains, ça va dans cette direction. Marcher par l'esprit, c'est des choses que, je dirais, dans un certain sens, tout le monde a envie. On a envie d'aimer, d'être aimé. On a envie de paix. On a envie de joie. On a envie d'exprimer et d'être bon, etc. On a envie de maîtrise de soi. Bien, toute chose qui est faite selon les règles humaines, les désirs humains, ne vont pas dans cette direction, mais vont dans l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, ces choses-là, les œuvres de la nature humaine ou les fruits de l'esprit, ce n'est pas ça marcher par l'esprit ou marcher par la chair. C'est le résultat. Si j'essaye de... et je marche dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, c'est pas que je marche par l'esprit. C'est parce que je marche par l'esprit que ces choses arrivent. Si je suis dans l'immoralité, l'impureté, la débauche, c'est pas tellement c'est le problème si on veut, mais c'est pas tellement parce que je choisis de le faire, mais j'ai une attitude intérieure, j'ai quelque chose qui finalement me mène dans cette direction. Donc marcher par l'esprit, c'est pas tellement exprimer l'amour, la joie, la paix, c'est agir dans un esprit qui produit ce qui nous envoie dans cette direction. Vous vous rendez compte, c'est pas très facile à saisir cette chose-là. Je vous promets, quand je réfléchissais à tout ça, je savais pas trop où j'allais. C'était un peu comment avoir une réponse. C'est une question finalement marchée par l'esprit qu'on se pose, que je me pose peut-être depuis toujours et j'avais jamais réfléchi. Vraiment profondément. Peut-être un moyen de le sentir, c'est de voir comment marche-t-on selon la nature humaine. Et Paul, ici, il dit, frères et sœurs, verset 13, « C'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. » J'ai dit tout à l'heure, suivre ses désirs, c'est, je dirais, normal. On va agir en fonction de ce que l'on désire. Et marcher par l'esprit, la liberté à laquelle on est appelé, c'est de ne pas suivre les désirs de notre nature propre. Même les bons désirs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des désirs mauvais, ça il faut bien le reconnaître, mais on est aussi plein de bonnes choses, de bons désirs. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Le Saint-Esprit met en nous, finalement, des nouveaux désirs. Mais quels sont-ils? En fait, ce chapitre, il donne une indication. C'est un petit peu avant. Je vais vous lire les versets 2 à 6. Moi, Paul, je vous le dis. Si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est pas circoncision, incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Bon, le problème des Galates, il est particulier. Le problème des Galates, c'était revenir aux formes de la loi. En fait, derrière ce cas particulier, il y a un problème, c'est que finalement, leur action, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à obtenir quelque chose de Dieu. Alors eux, c'est quelque chose comme le salut, mais ça va plus profondément. Ils cherchent à obtenir quelque chose de Dieu. Ils cherchent, par leurs actions, à se rendre Dieu favorable. Et je pense que c'est là quand même la clé. Beaucoup de nos actions, beaucoup des choses que l'on fait, des bonnes choses que l'on fait, elles ont pour but, finalement, le bénéfice qu'on peut en retirer. On fait les choses parce qu'on veut en retirer un bénéfice. On désire quoi? Quelque chose pour nous-mêmes. Alors, c'est évident dans beaucoup de choses qu'on fait, mais c'est plus subtilement quand même présent dans toutes les bonnes choses qu'on fait, les choses qu'on fait pour Dieu. Ces Galates, ils voulaient se faire circoncire, c'était pour des bonnes raisons. C'était faussé parce qu'ils le faisaient en fait pour obtenir quelque chose. Et nous, les choses qu'on fait sont finalement des bonnes choses souvent, mais elles sont faussées parce que finalement, on est au centre de ces choses. Et je réfléchissais, je me dis, mais quand je prie, pourquoi est-ce que je prie? Et c'est essentiellement parce que j'ai envie de recevoir quelque chose de Dieu. C'est essentiellement parce que j'ai envie que les choses se passent bien. Pourquoi on peut aussi... Il y a toutes sortes de choses, mais... Qu'est-ce que j'ai mis? Pourquoi on peut rechercher les dons de l'esprit? Pourquoi? C'est juste de chercher les dons de l'esprit. Paul nous y exhorte. Mais vraiment, trop souvent et facilement, en tout cas derrière cette recherche, c'est la recherche d'un certain succès, d'obtenir quelque chose, d'avoir du fruit, d'apporter quelque chose. Il y a tout un côté dans tout ce qu'on fait qui est dirigé vers nous-mêmes. On a envie d'être, alors on ne le dira pas comme ça, mais on a envie d'être admiré, on a envie d'être apprécié, on a envie de succès. Il y a un côté subtil qui est très présent là-dedans, et qui est très présent même dans l'Église. Ça m'a rappelé une histoire. Il y a quelques années, on avait été à une convention, et on avait rencontré un ancien ami, qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans, qui nous disait « Ah, mais vous êtes toujours à l'Église à Versoix ?» On a dit « Oui, oui, on est toujours ». Elle nous a dit « Ah oui, j'en ai entendu parler, elle n'a pas décollé ». D'ailleurs, ce n'était pas très poli, franchement. Mais je me suis dit « Mais quelle conception de l'Église on a? Est-ce que l'Église, c'est quelque chose qui doit décoller ?» Vous voyez, finalement, c'est exactement la pensée qu'on a dans une entreprise. On crée une entreprise, qu'est-ce qu'on veut? Ben, qu'elle, qu'elle se développe, qu'elle aille de l'avant. C'est normal, c'est la logique humaine. Est-ce que la logique de Dieu est que l'Église, comment dire, décolle. On a envie de être fier de son Église. Et, vous voyez, c'est relatif, c'est pas si subtil que ça, mais c'est quand même fin. Et il y a énormément de choses qui sont faites dans cette logique humaine. Alors ça, on comprend, mais j'ai toujours pas répondu à la question. Qu'est-ce qui fait la différence? Quel est le but fondamental de Dieu? Qu'est-ce que veut le Saint-Esprit? Il a des moyens, il a sa puissance en action, il nous sanctifie, il nous donne des dons, il nous donne des révélations, il agit. Mais il a un but dans tout ça. Il ne fait pas ça juste pour nous satisfaire, juste pour que notre Église décolle, juste pour... Non, il a un but beaucoup plus profond. Et c'est ce but-là que j'aimerais nous montrer, je dirais. Il n'est pas mystérieux, hein. Parce que qu'est-ce que l'Esprit de Dieu? Quel est le but? Quelle est la mission que la Trinité a confiée au Saint-Esprit? Jésus le dit d'une certaine manière, en Jean 15 par exemple. « Quand sera venu le défenseur, l'Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Chapitre 16, et on pourrait trouver d'autres versets. « Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le montrera. Tout ce que le Père possède aussi à moi, est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annonce. » Le rôle de l'Esprit, le travail de l'Esprit, le désir profond de l'Esprit, c'est de glorifier Jésus, c'est de montrer Jésus. Le Saint-Esprit a un seul but, c'est glorifier Jésus. Jésus a un seul but, c'est de glorifier son Père. Le Père a un seul but, c'est glorifier le Fils. Vous voyez, dans la Trinité, il y a un fonctionnement où toujours le moteur, c'est donner à l'autre. Et le but du Saint-Esprit, c'est de bénir, d'élever Jésus, c'est de le montrer, c'est de nous mettre en relation avec lui. Ce n'est pas nous qui sommes le centre. Ce que le Saint-Esprit fait avec nous, ce n'est pas pour nous, c'est pour Jésus. Il nous prend et il veut nous rendre dignes de Jésus. Les êtres humains, les croyants, ceux que Dieu a sauvés, c'est le cadeau du Père au Fils. On est à lui, on est au Père et il nous a donné à son Fils. On est le cadeau. Et ce que le Saint-Esprit fait, c'est de faire tout ce qu'il peut en nous et avec nous pour qu'on soit digne de Jésus, pour qu'on puisse être devant lui, pour qu'on le connaisse, qu'on l'aime, qu'il y ait cette relation avec nous, pour qu'il fasse notre joie et que lui ait de la joie en nous. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. C'est pas le succès, mais c'est qu'on connaisse et qu'on aime Jésus. Et profondément, dans notre naturel, ce qu'on fait, c'est nous rechercher nous-mêmes, c'est rechercher notre progrès, c'est rechercher les choses qui nous concernent. C'est naturel, mais il y a un côté où c'est profondément faux. On est à côté, on est créé, on est sauvé, on est fait là pour Jésus. C'est Jésus qui est important, c'est pas à nous. Ça, c'est la réalité. Maintenant, le problème de cette réalité, c'est qu'on c'est des mots qu'on connaît. Comment est-ce que c'est possible que ça devienne vrai, vivant, réel? Ben, on ne peut rien faire pour ça. Mais l'Esprit le fait. C'est son travail. Et il le fait. Il y a un verset qui dit « Toutes choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu ». Ça veut dire quand même que absolument tout ce qui arrive dans notre vie vient du Saint-Esprit, est fait par le Saint-Esprit. Et ça veut dire qu'il n'y a rien dans nos vies, il ne soit pas finalement porté, rendu vivant, réel par le Saint-Esprit. En fait, on réalise tous, je pense, on est dans un chantier. On n'habite pas une maison terminée. On est en train de progresser, on est en train de ranger, de transformer. Dieu, il a un travail. On est à la fois dans ce monde naturel, on agit de cette manière, puis à la fois d'une façon indirect, subtil, il y a ce Saint-Esprit qui fait tout. Et dans ce chantier, dans cette réalité dans laquelle nous sommes, eh bien, on peut en discuter, mais moi je dirais il y a deux choses que j'essayais d'aborder ce matin, mais qui sont nécessaires. La première chose, c'est réaliser que je dépends totalement de cet Esprit de Dieu pour vivre pour Jésus et pas par moi-même. Il n'y a que ce Saint-Esprit qui permet cette transformation profonde. Il n'y a que lui qui permet de faire. On a tous réalisé que si on s'est tourné vers Dieu, si on est converti, si on connaît Jésus, c'est pas aucun de nos mérites, aucun de nos efforts, c'est un cadeau de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est à 100% là pour qu'on soit sauvé. C'est la même manière pour marcher par l'Esprit. C'est totalement dépendant de lui. Et comme pour le salut, d'un côté il donne, et d'un autre côté, Dieu donne le Saint-Esprit agit envers nous, et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on reçoit, ça s'appelle la foi. Du côté de Dieu, c'est l'Esprit, de notre côté, c'est la foi. On ne peut que recevoir, on ne peut rien, finalement, sans cette révélation, sans ce travail, ça n'a pas de sens. Mais ce qui est heureux, c'est que le Saint-Esprit, il est Dieu, il est tout-puissant. Donc ce travail, il le fait. N'en doutons pas, il est à l'œuvre dans chacun de nous. Et chaque chose qui nous arrive, finalement, derrière, qu'on en soit conscient ou pas conscient, que ça nous semble positif ou négatif, il y a l'Esprit de Dieu. Ça n'arrive pas au hasard. L'Esprit de Dieu travaille minute, seconde après seconde dans nos vies, conduisant toutes choses pour qu'on connaisse Jésus. Et ma responsabilité, comment je réponds à ça ? En réponse à l'Esprit, finalement, puisque l'Esprit, lui, ce qu'il veut, c'est nous présenter à Jésus et nous présenter Jésus, ben c'est de donner la priorité à Jésus, pas à moi-même. L'Esprit travaille pour me faire aimer Jésus, et la foi, ben, j'accueille, je suis d'accord, je vais dans cette direction, j'y crois. Et Galates, un peu plus loin, il l'exprime de cette manière-là. « Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Marchons par l'Esprit, mais c'est « laissons-nous », c'est « laissons-nous conduire ». Le mot grec, il est un peu particulier, il dit en fait, c'est comme une troupe qui marche au pas, qui marche en même temps. Ça veut dire, en fait, être d'accord, être en accord, être en harmonie, être en cohérence ensemble. Ben, si l'Esprit, ce qu'il veut, c'est élever Jésus, eh ben, notre manière de marcher par l'Esprit, c'est aussi de donner cette priorité à Jésus. Ce qui est important, ce n'est pas à nous, c'est Jésus. C'est vrai pour chacun de nous, c'est vrai aussi pour l'Église. Et j'étais sur le site internet de l'Église l'autre jour, de l'Église TLG, je ne sais plus exactement pourquoi, et j'ai retrouvé la devise de l'Église libre. Il y a 5 ou 6 ans, on avait rediscuté, réfléchi, prié entre beaucoup de personnes pour savoir quelle est la vision de l'Église libre. Et on a fait une nouvelle constitution. Et puis dans cette période-là, on avait réfléchi, mais il faut qu'on trouve une phrase qui caractérise notre Église. Et c'était Thierry Bourgeois, si je me rappelle bien, qui était venu avec une phrase que je revois sur ce site, c'est « Le but de l'ELG, c'est conduire à la source ». Et je me suis dit, enfin, je ne sais pas si notre Église le fait correctement, mais elle a au moins un but qui est essentiel. Si on est là, si on travaille ensemble, si on s'encourage mutuellement, c'est pour nous conduire à Jésus. Il est vraiment le centre. Et vous me direz, j'arrive au bout, mais ce n'est pas très concret ça. C'est au niveau de la pensée, on a de la peine à y entrer. Ben oui, c'est difficile à identifier. Heureusement que ça dépend du Saint-Esprit. Je me suis dit, on a besoin de quelque chose d'un peu plus pratique. Est-ce qu'on va faire des témoignages, discuter ensemble ? Mais je me suis dit, mais on est tellement différents, on est à des niveaux différents. Et c'est quelque chose qui est tellement difficile à sentir. Les discussions entre nous, elles risquent de pas être très... Le message était un peu théorique, mais nos discussions risquent d'être un peu théoriques. Et je me suis dit, ce qu'on peut faire, c'est ben, trouver quelqu'un qui est un exemple ou qui montre comment marcher par l'Esprit. Et j'ai pensé à Paul dans des circonstances spéciales, c'est dans l'Épître aux Philippiens. Il y a un endroit où Paul nous partage ses réflexions. Il est là, il est en prison, probablement à Rome. Il se pose des questions sur ce qui se passe. Et puis, Bon, il écrit, il le dit aux Philippiens, mais en gros, on sent, il réfléchit à l'intérieur de lui-même un peu. Et je me suis dit, ce qu'on va peut-être faire ensemble, c'est on va se faire par petits groupes, 5-6 personnes, prendre ce passage et puis essayer de discerner comment, dans ce passage, le Saint-Esprit, comment, je dirais, Paul vit quelque chose de cette réalité de la marche du Saint-Esprit. Alors j'ai préparé un paquet, un par personne, j'espère qu'il y a assez. Si on était dans la légalité covidienne, il y en a assez. Si on a dépassé... Et j'ai posé un certain nombre... Il y a ce passage que vous lirez. Et puis ensuite, je vais poser quand même quatre esquisses de questions pour faciliter le partage. Et je vous suggère donc de vous mettre par groupe de 5-6, de lire tranquillement ce passage, d'y réfléchir un tout petit peu individuellement, et puis ensuite de partager entre vous sur ces questions. Une sorte d'étude biblique, si on veut, qu'on fera ici plutôt que de faire nos discussions habituelles. Alors, on va faire ça, mais je vais commencer par prier, ou terminer par prier plutôt. Et Seigneur, oui, je peux terminer en priant, parce que une chose qui est évidente et que je ressens très fortement en ayant cette préparation, c'est que tout dépend de toi et de ton esprit. Et j'aimerais te demander que c'est cet esprit qui rende vivant des mots tels que ceux que je viens de dire, même les mots de ta parole, Seigneur, que ton esprit soit là et qu'on soit ouvert à cet esprit, qu'on ait foi, cet esprit profond de confiance et d'obéissance, mais de confiance que tu agis. Et je te prie que ça puisse faire notre expérience dans ce moment qui va venir, que ce temps de réflexion et de partage, il soit finalement utilisé par l'Esprit pour produire quelque chose en nous. On a besoin de toi, Seigneur Jésus, et tu as donné cet Esprit pour nous servir et nous approcher de toi. Alors Seigneur, on te remercie et Saint-Esprit, on te dit, mais agis s'il te plaît. Amen.